venons d'entendre ce matin le témoignage de Manuela, un beau témoignage au cours duquel notre sœur nous a retracé la manière dont le Seigneur l'avait rencontrée. Alors pour ceux qui fréquentent notre Église depuis de nombreuses années, nous avons eu le privilège d'entendre ici de très, très nombreux témoignages. Et je dirais que pratiquement tous les témoignages entendus étaient différents. Parce que le Seigneur agit de manière extraordinaire en tenant compte des circonstances, du vécu, de l'antériorité de chacun, dans sa famille, dans son milieu, etc. Et pourtant, je dirais que tous les témoignages que nous avons entendus ont quelque chose de commun. La manière extraordinaire dont Dieu, à un moment donné, de la vie de l'un ou de l'autre, a su toucher son cœur, parler à son cœur et l'amener à prendre une décision aussi merveilleuse que celle qui conduit au salut. Il n'y a rien de plus beau dans la vie d'un être humain que de rencontrer Jésus-Christ d'une manière personnelle. Ici-bas, tout l'or du monde ne saurait valoir une telle rencontre, une telle décision et un tel avenir éternel. Et je dirais que la parole, une parole de Blaise Pascal résume très très bien ce que Dieu fait dans une vie. Je cite Blaise Pascal qui dit « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que seul Dieu peut remplir. » Et c'est vrai que lorsque l'on vit une expérience comme celle qu'a vécue Manuela, c'est une vie transformée, une vie rayonnante, une vie remplie de la présence de l'Esprit qui nous est destinée. Le passage que j'ai choisi de méditer avec vous ce matin se trouve dans le livre des Actes des Apôtres et traite de l'intérêt de la recherche du manque d'éclairement d'un homme qui pourtant a été touché par la grâce de Dieu et d'une manière extraordinaire. Ce récit est à la fois d'une grande simplicité dans le déroulement dont cette rencontre s'est faite, mais également d'une profondeur spirituelle remarquable parce qu'il montre à travers un certain nombre d'enseignements que Dieu peut toucher n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, selon le dessein de Dieu. Et aussi qu'il peut nous amener, l'un ou l'autre d'entre nous, à nous laisser à l'écoute de Dieu pour qu'il nous conduise vers ceux qui ont besoin d'entendre sa parole. Alors nous allons lire dans le livre des Actes, au chapitre 8, ce merveilleux récit de la rencontre de Philippe avec l'eunuque éthiopien. Chapitre 8, nous lirons à partir du verset 26 et jusqu'à la fin du chapitre. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors, Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. C'est sur cette histoire extraordinaire que j'aimerais que nous nous arrêtions ce matin. L'histoire d'un homme venu pour adorer, d'un homme qui manque de connaissances et d'un homme qui va rencontrer le Seigneur. Nous aborderons cette méditation en nous attachant d'une part à voir dans un premier point la recherche de cet homme, la recherche d'un Dieu qu'il était venu pour adorer. Ensuite, une lecture attentive du prophète Ésaïe et une incompréhension totale de ce qu'il lit. Et enfin, un éclairage nouveau et une décision salutaire. À la recherche du vrai Dieu. Alors, quelques précisions sur cet homme, un haut dignitaire éthiopien. Un homme qui occupe dans son pays, ce n'est pas l'Éthiopie actuelle, c'est la Nubie, c'est une zone qui est plus proche du Nord-Soudan. Un homme qui occupe une position sociale élevée, puisqu'il nous est dit qu'il est surintendant des finances au service de la reine Candace, reine d'Éthiopie. Une position élevée qui devait certainement lui devoir de travailler plus de 35 heures par semaine. Avec des responsabilités à l'échelle locale, à l'échelle du pays, et là, peut-être même, à l'échelle internationale. On ne sait pas quel était le seul but de sa visite à Jérusalem. Adorer, rencontrer des gens. Un étranger, mais qui recherche Dieu et qui veut l'adorer. Alors il faut croire que cette recherche est importante pour lui, très importante, puisqu'il quitte tout. Il quitte son pays, probablement avec une délégation, il n'est pas parti seul sur ce char, et il va effectuer un long voyage, plusieurs jours, voire dizaines de jours. Même si l'on est sur un char avec des chevaux, la traversée de toutes ces zones semi-désertiques n'est pas facile, et il a dû prendre du temps. Pourquoi est-il venu à Jérusalem ? Probablement parce qu'il a entendu que dans ce pays, il y avait un autre Dieu que celui ou ceux qu'ils avaient l'habitude d'adorer dans son propre pays. Un Dieu qui connaît tout, un Dieu qui voit tout, un Dieu qui sait tout, un Dieu qu'il veut adorer. Cet Éthiopien, par ailleurs, est probablement, même si rien dans le texte ne le signale, un homme de couleur, parce que le mot en lui-même, Éthiopien, veut dire littéralement homme au visage brûlé, ou visage de feu. Premier enseignement, la parole de Dieu et l'Évangile, il est pour tous, sans distinction de race, de couleur, d'origine. Un premier enseignement, donc. Voilà quelques considérations sur cet homme. Cet homme qui a une soif inassouvie. Compte tenu de son origine, il ne faut pas oublier que dans la loi mosaïque, un eunuque ne pouvait entrer dans le temple. Il ne pouvait donc pas entendre la parole qui, dans ce temple de Jérusalem, pendant le temps de son séjour, a pu être annoncée. Il ne pouvait rester que dans la cour. Qu'a-t-il fait ? Comment a-t-il recherché le Seigneur ? Comment l'a-t-il adoré ? Rien dans sa vie, pendant ces quelques jours ou semaines passées à Jérusalem, ne s'est passé. Il a toujours un besoin, une soif qu'il n'a pas assouvi. Il est encore vraiment altéré. Et il a besoin d'être désaltéré. Et sur le chemin de retour, il lit encore et encore. Il lit un rouleau du livre du prophète Ésaïe. Alors on ne sait pas du tout comment ce rouleau est parvenu entre ses mains. S'il l'a acheté pendant son séjour à Jérusalem, s'il l'avait avant de venir à Jérusalem pour adorer, toujours est-il que c'est un homme déterminé qui, s'il n'a encore pas tout compris, est avide de la parole de Dieu. Et il lit ce prophète. Il lit. Mais il lit sans rien comprendre. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé à vous de lire quelque chose que vous ne comprenez pas parce que c'est une matière, une discipline que vous ne maîtrisez pas? Si je vous donnais un livre de médecine à lire, ou si même moi je me plaçais devant la lecture d'un livre ou d'un annales de physique, de chimie, de thermodynamique, ça serait de l'hébreu pour moi. Cet homme lit. Et il lit à haute voix. On y reviendra. Avec attention, à haute voix. Peut-être avez-vous connu une telle situation dans vos vies. Un moment où vous recherchiez Dieu, que vous aviez besoin de comprendre, un passage de la Bible qui vous paraît obscur, et que même une relecture attentive ne vous permet pas de comprendre ou d'en saisir le sens profond ou ce que vous en avez pour vous à retenir. Et que Dieu s'est trouvé sourd à votre prière. Il n'a pas répondu. Vous continuez à lire, à relire, sans rien comprendre. Mais Dieu connaît la sincérité de cet Éthiopien. Il connaît votre sincérité, votre besoin de lire, de relire, de saisir le message de la parole de Dieu. Et sans aucun doute, à un moment ou à un autre, comme il l'a fait pour cet Éthiopien, il ne restera pas silencieux. Il trouvera un moyen pour vous faire comprendre ce dont vous avez besoin. Pourquoi ? Pourquoi puis-je affirmer cela ? Eh bien, tout simplement parce que le Seigneur lui-même, à travers de la bouche de l'évangéliste Luc, nous dit ceci : celui qui demande reçoit, et celui qui cherche trouve. Notre deuxième point va nous montrer comment Dieu agit, et encore là, de manière extraordinaire. Dieu n'est jamais insensible, je le disais, pour aider, pour éclairer, pour encourager ceux qui font appel à lui, qui ont besoin de mieux le connaître pour mieux le servir. Dans ce récit, nous voyons donc un homme qui cherche Dieu et nous voyons également un homme, un certain Philippe, qui lui est un envoyé de Dieu et qui va miraculeusement, grâce à une aide de Dieu, l'aide d'un ange, se trouver brutalement parachuté de Samarie, au nord de Jérusalem, sur le chemin de Gaza, au sud, vers la région désertique du Négev. La préparation de Philippe, c'est intéressant. Alors que cet eunuque chemine sur le chemin de son retour en Éthiopie, Dieu parle. Dieu appelle. Rien ne prédisposait Philippe, alors qu'il évangélisait en Samarie, avec d'autres, Pierre et Jean, à se trouver brutalement sollicité par Dieu pour aller à Perpète, dans un endroit quasi inconnu et désert. Et pourtant, le texte nous dit que Philippe, lorsque l'ange lui a dit « Lève-toi et va », se leva et partit. Quelle réaction pour tous ceux qu'il a laissés de côté à continuer l'évangélisation. Un excentrique, celui-là. Il s'en va, il part ailleurs, là, d'un coup de tête. Mais les pas de Philippe sont guidés, préparés par Dieu, pour aller, pas sauver 90 personnes qui ont compris l'essentiel, mais pour sauver une âme. c'est pas guider. Guider vers un homme qu'il va rencontrer sur cette route, d'un homme qu'il va pouvoir enseigner, et enseigner clairement. La première chose qui m'a étonné, au moment où l'Esprit a dit à Philippe, « Approche, avance-toi près de ce char. » Certes, Dieu a tout préparé. Mais pourquoi et comment Philippe va-t-il pouvoir toucher cet homme, cet Éthiopien ? Eh bien, tout simplement parce que cet Éthiopien lit à haute voix. Et cela va dans la compréhension de Philippe, lui montrer comment parler. Là, il y a un nouvel enseignement à propos de Philippe. Dieu nous demande, si nous sommes ses enfants, d'être toujours disponibles. S'il nous appelle pour une mission donnée, pour un travail donné, qu'il soit ponctuel ou qu'il soit sur une plus longue période, pour un ministère par exemple, à être à son écoute, à être disponible pour lui. Cela a été dit tout à l'heure dans le moment où Matthieu a prié pour Manuela. Disponible. Il y a autour de nous, dans cette ville, ici même dans cette église, des gens qui ont besoin de la grâce de Dieu, qui ont besoin que l'un ou l'autre les conduise vers le salut, sachant que c'est l'Esprit qui agit. Cet eunuque était seul, il avait besoin de comprendre. Et il va y avoir un éclairage qui va arriver. Mais avant, il y a une question surprenante qui est posée par Philippe. Comprends-tu ce que tu lis ? J'ai dit tout à l'heure que si Philippe a pu poser cette question, c'est que cet eunuque lisait à haute voix et que le texte d'Ésaïe 53 que l'eunuque lisait n'était pas un texte inconnu pour Philippe. Chaque fois que nous lisons une portion des Écritures, quel que soit le texte que nous lisons, notre devoir dans la méditation de la parole de Dieu est de rechercher le sens profond de ce que nous lisons. Pas une lecture superflue, pas une lecture à la va-vite, faite le matin ou le soir avant de partir au travail ou de nous coucher, non. Une lecture attentive, assidue, avec comme but comprendre ce que le texte dit d'une manière générale, mais plus encore ce qu'il me dit à moi. En quoi ce texte me parle ? En quoi ce texte peut-il transformer ma vie ? En quoi ce texte peut-il me conduire à aller de l'avant avec Dieu ? Et c'est ce que Philippe va s'évertuer de faire. À la question de Philippe, l'eunuque va répondre d'une manière sincère, un dignitaire. Ce n'est pas le bas de l'échelle. Philippe, probablement, n'était pas à son niveau. Mais à la question de Philippe, l'eunuque répond très simplement, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Cette réponse traduit deux éléments, deux traits de caractère dans l'esprit de l'eunuque. Tout d'abord, une grande humilité. Cet homme a l'intelligence supérieure, aux capacités importantes, sinon il n'aurait pas été nommé grand intendant de la reine Candace. Cet homme qui n'était probablement pas seul au cours de son voyage, il avait probablement quelques personnes avec lui, reconnaît qu'il ne sait pas grand-chose. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà trouvé dans une grande réunion avec des personnes importantes, ou moins, à reconnaître votre ignorance. Ben non, je ne sais pas. Cette tenue, dans tous les cas, reconnaît par cette humilité qu'il se met sous le pouvoir d'interprétation de l'Écriture que Philippe va lui donner. Et puis cette ignorance, comme je viens de le dire, venu à Jérusalem pour adorer, il en est revenu sans avoir retenu, trouvé ce qu'il cherchait. Et quand Philippe l'interpelle, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce texte d'Ésaïe 53? L'esprit vif, vif, qui montre que cet homme était intelligent, va tout de suite cerner l'essentiel. Je ne comprends pas, mais de qui ce texte parle-t-il? Un besoin de comprendre. Et notre troisième point, un nouvel éclairage et une décision salutaire. Pour expliquer le sens de cette prophétie, Philippe va être à la fois simple, mais aussi très direct. Le passage des Actes des Apôtres que Luc nous présente nous montre comment Philippe va procéder. Il nous est dit, et c'est le verset 35, « Alors, commençant par ce passage, Philippe lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. » Dans le nom de Jésus se trouve tout le message de l'Évangile. Et dans Ésaïe 53, que lisait l'eunuque, se trouve un message prophétique qui nous parle des souffrances de la mort de Jésus sur la croix. Il n'y a là aucun hasard. Aucun hasard dans cette lecture et dans la manière dont Philippe va pouvoir non seulement lui révéler à travers ce passage de qui il est question, ce que ce Jésus a fait, mais il va aller bien au-delà. Là, il lui annonce que cet homme dont les souffrances sont évoquées, c'est le Fils de Dieu, celui que Dieu a envoyé pour porter mes péchés, nos péchés, les péchés du monde à ma place. Je dirais que ce texte, s'il est approprié, c'est que nulle part ailleurs, dans l'Ancien Testament, nous ne voyons une description aussi simple, aussi précise, aussi profonde de l'œuvre du Seigneur Jésus. Quelque chose d'essentiel. Le Messie, loin, l'envoyé, c'est celui-là qui est dépeint dans ce texte. Ces versets nous dépeignent l'humble humiliation du Seigneur qui s'est abaissé, qui est venu ici-bas, qui a été dédaigné, qui a été haï, qui a été couronné d'épines, mais qui est mort sur la croix. Ils décrivent ce que Jésus a vécu, ce que Jésus a subi, pour moi, pour vous. Mais à partir de ce texte, Philippe va aller plus loin. Il saisit l'occasion d'annoncer non seulement la bonne nouvelle de Jésus, et certainement comment faire pour accepter Jésus de tout son cœur. Mais Philippe lui a certainement dit des choses qui ne sont pas directement implicites dans ce texte. Il lui a sans aucun doute parlé d'une vie nouvelle, d'une place dans le ciel, d'une vie éternelle, d'un péché totalement effacé. Et les explications de Philippe ont donné un sens réel au texte d'Ésaïe. La foi de ce haut dignitaire qui avait probablement déjà germé un peu dans son cœur s'est développée à la compréhension non seulement du texte en lui-même, mais de tout ce que Philippe lui a apporté. Tout ce dont cet homme avait besoin, il vient de le recevoir. Le salut, il est sien maintenant. Mais Philippe a sans aucun doute été plus loin encore dans l'annonce de l'Évangile. Il lui a certainement parlé de témoignage, d'engagement et sans aucun doute de baptême. Alors vous allez me dire pourquoi ? Tout simplement à cause du verset suivant. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Si le baptême n'avait pas été auparavant évoqué par Philippe, la question ne serait jamais arrivée dans la bouche de l'Éthiopien. Et cette rencontre avec l'eunuque, pour Philippe, va marquer une décision importante. Sans aucun doute, le premier d'un continent noir à être accepté dans le ciel et à passer par les eaux du baptême. si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et en posant cette question, l'eunuque montre qu'il avait vraiment compris la signification du baptême. Parce que sa réponse, elle est sans ambiguïté. « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » C'est la question qui a été posée tout à l'heure à Manuela. « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » L'expression du baptême, c'est la foi sincère, la reconnaissance de Jésus comme notre sauveur personnel, le désir de s'engager avec lui, de témoigner, d'en faire le Seigneur de nos vies. Qu'un homme demande le baptême aussitôt après avoir reçu la grâce du salut, c'est quelque chose d'assez rare dans la parole de Dieu, mais cela est, si vous suivez ou si vous avez suivi nos études bibliques du jeudi soir sur le livre des Actes, fréquent dans ce livre-là. C'est un engagement, une décision importante qui a été prise par l'eunuque. Se faire baptiser. Alors vous allez me dire, mais comment l'a-t-il fait là? C'est pas comme nous. Il n'y avait qu'une petite assemblée, quelques personnes, oui. Mais il y avait Philippe. Et il y avait ceux qui l'accompagnaient, cet eunuque, dans son voyage. Le baptême n'est pas un rite. Ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est la foi qui sauve. Mais cet homme a montré sa foi en disant, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Rien donc n'empêchait à ce que Philippe le baptise. Un acte de confession de sa foi, un acte de soumission, un désir de s'engager. Le message que Philippe a annoncé à cet eunuque, qu'il est encore pour nous aujourd'hui. Même au XXIe siècle, même si beaucoup de choses ont changé, nous pouvons recevoir simplement Jésus, voir notre vie transformée, si nous reconnaissons ce que lui a fait pour nous. Ce n'est pas compliqué. Sacrifice de Jésus, il est encore pleinement efficace. Il nous ouvre à une vie nouvelle et à une vie future dans l'éternité avec Dieu. Pour cela, il nous suffit de reconnaître notre péché, de demander sincèrement pardon à Dieu, de faire confiance à Jésus-Christ et de le faire notre Seigneur et le Sauveur de notre vie, et de nous engager à le suivre, quoi qu'il arrive. Voilà comment un des premiers païens a saisi l'Évangile, a saisi la grâce de Dieu, a été baptisé, et s'en est retourné vers son peuple avec une reconnaissance infinie et en sachant maintenant qui, comment et pourquoi il allait pouvoir adorer. Le récit se termine par un nouveau miracle. Sitôt le baptême de l'eunuque accompli, Philippe disparaît de ses yeux. Il ne le vit plus. Qu'est-ce que ça nous montre? Il ne s'est pas ni réjoui, ni attristé, notre eunuque éthiopien, de la disparition de Philippe. Il avait devant lui non pas l'homme qui l'a conduit à comprendre les textes de la parole de Dieu, mais il avait devant lui celui que Philippe lui a révélé, Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le texte nous dit qu'il s'en retourna joyeux. La rencontre avec le Seigneur, début d'une vie nouvelle, est aussi un moment de joie, et de joie pour toujours. Alors, au milieu de l'activité bruyante de notre monde, au milieu des louanges, au milieu des cris de joie, des cris de victoire, n'oublions pas, c'est un enseignement pour nous, de prêter une oreille attentive à la voix du Seigneur, pour être toujours disposé à aller là où il nous envoie, sachant qu'il a peut-être, ou qu'il va peut-être, placer sur notre route une, ou même, pourquoi pas, un peuple qui a besoin d'entendre sa parole et de l'écouter. Rappelons-nous, et la suite des événements de cette belle histoire est là pour nous le rappeler, que Dieu est le maître de tout, du temps, des lieux et des personnes. C'est lui qui touche, c'est lui qui convainc, c'est lui qui bénit pour l'éternité. que son nom soit béni. Amen.